L'esprit agira, vous fortifiant puissamment dans l'homme intérieur, élevant en vous un saint temple au Seigneur. Et le temps viendra, s'il n'est pas encore venu pour vous, peut-être plus tôt que vous ne le pensez ou que vous n'osez l'espérer, où l'habitation consciente de Christ dans votre cœur, par la foi, la parfaite révélation et le couronnement de Christ en vous, comme roi, comme guide, comme gardien de votre cœur et de votre vie sera devenue pour vous une expérience personnelle. Soyez saints, car je suis saint. Ô Dieu très saint, nous te bénissons de ce que tu as ressuscité ton Fils d'entre les morts et de ce que tu l'as élevé dans la gloire, afin que notre foi et notre espérance fussent en toi. Tu as fait de sa résurrection la puissance de la vie éternelle en nous, afin que comme il est, maintenant ressuscité, nous puissions marcher en nouveauté de vie. Comme l'Esprit de sainteté a habité et a agi en lui, il habite et agit en nous, et il devient en nous l'Esprit de vie. Ô Dieu, nous t'en supplions, achève ton œuvre dans tes saints. Donne-leur un sentiment plus vif, plus profond de la sainte vocation que tu leur as adressée en Christ, le ressuscité. Donne-leur à tous d'accepter l'Esprit qui animait sa vie terrestre, de faire de la volonté de Dieu leur délice, et que l'Esprit qui anime leur vie soit le même que celui qui animait celle de ton Fils. Que ceux qui jusqu'ici n'ont jamais accepté ces choses les acceptent et que dans la foi et dans la puissance d'une vie nouvelle ils disent « J'accepte la volonté de Dieu comme ma seule loi ». Que l'Esprit de sainteté soit l'Esprit qui les fasse vivre. Père, nous t'en supplions, que Christ soit ainsi, par une expérience croissante du pouvoir de sa résurrection, révélé à nos cœurs comme le Fils de Dieu, le Seigneur, le Souverain qui règne en nous. Amen. La vie de Christ est, en même temps, la sainteté de Christ. La raison pour laquelle nous échouons si souvent dans la poursuite de la sainteté, c'est que notre propre vie, la chair, cherche avec ses forces propres une sainteté qui soit comme un beau vêtement dont nous puissions nous parer pour entrer dans le ciel. C'est de la mort journalière à soi-même que naît la vie de Christ. De mourir ainsi, vivre ainsi en Christ pour être saint, mais comment pouvons-nous y arriver? Tout cela vient selon l'esprit de sainteté. Ayez le Saint-Esprit en vous. Dites journellement, je crois au Saint-Esprit. Trois saints en Christ. Quand Christ vient nous et que son esprit, tel qu'il a trouvé son expression dans les paroles et les œuvres de Christ sur la terre, entre en nous et pénètre notre volonté et notre sentiment intérieur, alors notre union avec lui devient ce que Jésus a voulu qu'elle fût. C'est l'esprit de sa conduite sainte, de sa sainteté qui doit être en nous. Saint en Christ. 20e jour. Sainteté et liberté. Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus les esclaves de la justice, faites maintenant de vos membres les esclaves de la justice pour devenir saints. Aujourd'hui que vous êtes affranchis du péché, et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous portez votre fruit de manière à être saints, et vous avez pour fin la vie éternelle. Romains 6, 18,19, 22. La liberté que nous avons en Jésus-Christ. Galates 2, 4. En vertu de la liberté, pour laquelle Christ nous a affranchis, tenez donc ferme, et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Galates 5, 1. Aucune possession n'est plus estimable et plus précieuse que la liberté, rien n'inspire et n'élève davantage l'homme, et rien au contraire de plus déprimant et de plus dégradant que l'esclavage. L'esclavage ravit à l'homme ce qui constitue sa virilité, sa puissance de décision et d'action, il l'empêche d'être et de faire ce qu'il voudrait. Le péché est un esclavage, c'est la servitude sous un pouvoir étranger qui s'est rendu maître de nous et qui exige souvent un service des plus répugnants. La rédemption de Christ restaure notre liberté et nous affranchit de la puissance du péché. Si nous voulons vraiment vivre comme des rachetés, nous devons non seulement regarder à l'œuvre que Christ a accomplie pour notre rédemption, mais nous devons accepter et réaliser par l'expérience combien est complète, sûre et absolue la liberté par laquelle il nous a rendus libres. Ce n'est que lorsque nous nous tenons fermes dans cette liberté, qui est en Jésus-Christ, que nous pouvons porter notre fruit de manière à être saints. Il est à remarquer combien rarement, dans la grande argumentation de l'Épître aux Romains, le mot « saint » se rencontre, et comment, là où il est employé deux fois chapitre 6, dans l'expression « pour la sanctification ou pour être saint », il est clairement énoncé comme but et fruit à atteindre par une vie de justice. Cette double répétition pour être saint, indiquant un résultat qui doit être atteint, est précédé d'une pensée répétée deux fois aussi, ayant été affranchis du péché, et étant devenus les esclaves de la justice, ce qui nous montre bien comment l'affranchissement de la puissance du péché et l'abandon de notre être au service de la justice ne sont pas encore en eux-mêmes la sainteté, mais le seul et le plus sûr moyen de l'atteindre. Une vraie connaissance de l'affranchissement du péché que Christ nous procure et une entrée complète dans cette liberté sont indispensables pour une vie de sainteté. Ce fut lorsqu'Israël fut affranchi du joug de Pharaon que Dieu commença à se révéler à lui comme le Dieu saint. Ce n'est que lorsque nous savons que nous sommes affranchis du péché, délivrés de la main de tous nos ennemis, que nous servons Dieu en justice et en sainteté tous les jours de notre vie. Ayant été affranchis du péché, pour bien comprendre cette parole, nous devons nous garder de deux erreurs. Nous ne devons ni la diminuer et ni y mettre plus que le Saint-Esprit n'y a mis lui-même. Le contexte montre que l'apôtre parle, non de notre position judiciaire, mais d'une réalité spirituelle, de notre union vivante avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection, par laquelle nous sommes entièrement délivrés de la domination de la puissance du péché. Le péché n'aura pas domination sur vous ? Paul ne parle pas davantage d'une expérience, de ce que nous sentons que nous sommes affranchis de tout péché. Il parle du grand fait objectif, que Christ nous a enfin délivrés de la puissance que le péché avait, de nous forcer à faire sa volonté et ses œuvres, et il nous presse, dans la foi à ce fait glorieux, de repousser hardiment les commandements ou la tentation du péché. Connaître la liberté que nous avons en Christ, notre affranchissement de l'empire et de la puissance du péché, c'est le moyen de réaliser ces choses dans notre expérience. Dans le temps où les Turcs et les Moors réduisaient souvent des chrétiens en esclavage, des sommes considérables étaient fréquemment payées pour la rançon de ceux qui étaient esclaves. Mais il arriva plus d'une fois que ceux pour qui on avait payé une rançon, éloignés dans l'intérieur du pays de leur servitude, ignorèrent toujours la bonne nouvelle de leur rachat, leur maître ayant tout intérêt à la leur laisser ignorer. D'autres avaient bien appris cette nouvelle, mais ils s'étaient tellement habitués à leur esclavage qu'ils étaient incapables de faire un effort pour atteindre la côte ou la frontière. L'indolence ou le désespoir les retenaient dans l'esclavage, ils ne pouvaient croire qu'ils fussent jamais capables d'atteindre sûrement le pays de la liberté. La rançon avait été payée, ils étaient réellement libres, et cependant, soit ignorance, soit manque d'énergie, ils étaient encore dans l'esclavage. La rédemption de Christ a si complètement mis fin au péché et à la puissance légale qu'il avait sur nous, car la puissance du péché c'est la loi, 1 Corinthiens 15, 56, que très réellement et très certainement le péché n'a plus le pouvoir de nous forcer à lui obéir. Ce n'est que dans la mesure où nous lui permettons encore de régner, dans la mesure où nous lui cédons comme si nous étions ses serviteurs, qu'il peut exercer son empire. Satan fait l'impossible pour tenir les croyants dans l'ignorance de ce qu'il y a de complet dans leur affranchissement de son esclavage. Et comme les croyants sont si facilement satisfaits de leur propre pensée sur la signification de la rédemption, et qu'ils désirent si faiblement et font si peu valoir leur droit de la voir telle qu'elle est, et de posséder par son moyen la délivrance complète et les bénédictions qu'elle renferme, l'expérience qu'ils font de l'étendue de l'affranchissement du péché est très faible. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. C'est par le Saint-Esprit, par sa lumière éclairant et guidant notre être intérieur, son action étant humblement désirée et finalement acceptée, que cette liberté peut devenir notre propriété. En Romains 6, Paul parle de l'affranchissement du péché, en Romains 7, 3,4, 6 de l'affranchissement de la loi, l'un et l'autre nous ayant été acquis en Christ et par notre union avec lui. En Romains 8, 2, il nous parle de cette liberté comme devenu nôtre par l'expérience. Il dit, « La loi de l'Esprit qui donne la vie, en Jésus-Christ m'a affranchi ou à la loi du péché et de la mort. » La liberté qui est nôtre en Christ doit devenir nôtre par une appropriation et une jouissance personnelle, par le moyen du Saint-Esprit. La dernière dépend de la première, plus la foi est complète, plus la connaissance est claire et nette, plus nous pouvons joyeusement nous glorifier en Jésus-Christ et en la liberté par laquelle il nous a affranchis, plus aussi est rapide et entière notre entrée en possession de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Comme la liberté est en Christ seul, de même c'est l'Esprit de Christ seul qui nous met de fait en possession de cette liberté et qui nous y fait demeurer. L'Esprit de vie qui est, en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Lorsque l'Esprit nous révèle Jésus comme Seigneur et Maître, notre nouveau Maître, qui seul a quelque chose à nous commander et qui nous engage à nous livrer nous-mêmes, à présenter nos membres, à abandonner notre vie entière au service de Dieu en Christ, la foi à l'affranchissement du péché, devient consciente et réelle en nous. Croyant à ce qu'il y a de complet dans la rédemption, le captif sort de son esclavage, comme un affranchi du Seigneur. Il sait maintenant que le péché n'a plus pour un seul instant aucun pouvoir pour lui imposer l'obéissance. Il se peut qu'il cherche à reprendre ses anciens droits, il se peut qu'il parle avec un ton d'autorité, il se peut qu'il nous effraie jusqu'à se faire craindre et à nous soumettre à ses exigences, mais il n'a absolument plus de puissance sur nous, à moins que nous, oubliant notre liberté, nous ne cédions à ses tentations, et que nous ne lui donnions nous-mêmes puissance sur nous. Nous sommes les affranchis du Seigneur ? Notre liberté est en Jésus-Christ. Au chapitre 7 des Romains, Paul décrit les terribles luttes de l'âme, qui cherche à accomplir la loi, vendue au péché, captive, esclave, sans la liberté de faire tout ce que son cœur désire. Mais lorsque l'esprit prend la place de la loi, le cri « Malheureux que je suis, qui me délivrera du corps qui cause cette mort ?» est changé en ce chant de victoire, « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. » Que de plaintes sur l'insuffisance de nos forces à accomplir la volonté de Dieu, que d'efforts impuissants, d'espérances déçues, de continuelles défaillances reproduisant, et répétant sous mille formes ce cri du captif, « Malheureux que je suis !» Mais, grâce en soit rendue à Dieu, il y a une délivrance. Christ nous a affranchis pour la liberté. Galates 5, un tenez donc ferme, et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Satan cherche sans cesse à mettre sur nous soit le joug du péché, soit celui de la loi, comme si le péché ou la loi dans leurs exigences, avaient quelque pouvoir sur nous. Mais il n'en est rien. Ne vous laissez point prendre à ces filets, tenez ferme dans la liberté, pour laquelle vous avez été affranchis par Christ. Prêtons l'oreille à ce message, or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus les esclaves de la justice. Faites maintenant de vos membres les esclaves de la justice pour devenir saints. Aujourd'hui que vous êtes affranchis du péché, et devenus les esclaves de Dieu, vous portez votre fruit de manière à être saints. Romains 6, 18,19, 22 vous avez, pour fruit la sanctification. Pour être saint, vous devez être libre, parfaitement libre, libre de manière à ce que Jésus puisse régner en vous, vous conduire, libre de manière à ce que le Saint-Esprit puisse disposer de vous, respirer en vous, agir, opérer en vous son œuvre secrète, douce et puissante, afin que vous croissiez jusqu'à la pleine liberté que Christ vous a acquise. Ayant été affranchis du péché, et étant devenus les esclaves de la justice, vous portez votre fruit de manière à être saints, et vous avez pour fin la vie éternelle. Liberté, justice, sainteté, voilà les degrés à franchir pour atteindre à la gloire future. Plus nous entrerons profondément par la foi dans la liberté que nous avons en Christ, plus aussi nous présenterons joyeusement et avec confiance à Dieu nos membres comme instruments pour faire ce qui est juste. Dieu est le Père dont nous sommes heureux de faire la volonté et dont le service est une parfaite liberté. Le Rédempteur est le Maître, auquel l'amour nous lie dans une obéissance volontaire. La liberté n'est pas la licence, nous sommes délivrés des mains de nos ennemis, afin de le servir sans crainte, en pratiquant sous son regard la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. 14. La liberté est la condition de la justice et la justice de la sainteté. Soyez saints comme je suis saint. Ô Dieu de gloire, je te prie d'ouvrir mes yeux à cette merveilleuse liberté, pour laquelle Christ m'a fait un de ses affranchis. Fais-moi saisir pleinement ta parole, quand elle me dit que le péché n'aura pas domination sur moi, parce que je ne suis pas sous la loi, mais sous la grâce. Apprends-moi à bien connaître la liberté que j'ai en Jésus-Christ et à m'y tenir ferme. Mon Père, ton service est un service de parfaite liberté, révèle-moi cette vérité, tu es l'infiniment libre, et ta volonté ne connaît d'autre limite que celle qui met sa propre perfection. Et tu nous invites à entrer dans cette volonté pour la faire, afin que nous soyons libres comme toi-même, ô Dieu. Tu es libre. Ô mon Dieu, montre-moi la beauté de ta volonté, lorsqu'elle m'affranchit de moi-même et du péché, et que je fasse de cette volonté mes seules délices. Que le service de la justice soit une joie et une force pour moi, et qu'il ait pour fruit ma sanctification, m'introduisant dans ta sainteté. Bien-aimé Sauveur, mon libérateur et ma liberté, je t'appartiens. Je m'abandonne à ta volonté, afin de ne connaître d'autre volonté que la tienne. Maître, je veux te servir, toi, et toi seul. J'ai ma liberté en toi. Sois mon gardien, toi seul. je ne puis rester debout un seul instant hors de toi. En toi je me tiens ferme, en toi je me confie. Dieu très saint, moi ton enfant libre, obéissant et qui t'aime, tu me rendras saint. Amen. 1. La liberté est le pouvoir de donner libre essor à l'impulsion de notre nature. En Christ, l'enfant de Dieu est affranchi de tout pouvoir qui l'empêcherait d'agir selon les lois de sa nouvelle nature. De cette liberté nous vient de la foi? Par la foi en Christ, j'entre en possession de la liberté et j'y demeure. 3. Cette liberté est du Saint-Esprit. Où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Un cœur rempli de l'Esprit devient vraiment libre. 4. Mais cette liberté est dans la charité? Vous avez été appelé à la liberté, seulement que votre liberté ne serve pas d'excitation à la chair, mais asservissez-vous les uns aux autres? La liberté pour laquelle Christ nous a franchis est la liberté de devenir semblable à lui, pour aimer et pour servir. Quoique libre de tous, je me suis fait esclave de tous pour gagner un plus grand nombre. Voilà la liberté de la charité. 5. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus les esclaves de la justice pour devenir saints. Laissez-les mon peuple, afin qu'ils me servent. Exode 10, 3. Celui-là seulement qui fait ce qui est juste peut devenir saint. 6. Cette liberté est joie et chant de triomphe. 14. Voir note F. Saint en Christ. 21e jour. Sainteté et bonheur. Le royaume de Dieu consiste dans la justice, dans la paix et dans la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Actes 13, 52. Néhémie dit, ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. 8, 10. La profonde signification de la joie dans la vie chrétienne est peu comprise. La joie est trop souvent considérée comme quelque chose de secondaire, tandis que sa présence dans notre âme est essentielle comme preuve que Dieu nous satisfait pleinement et que son service fait nos délices. Dans notre vie domestique, il ne nous suffit pas pour être contents que toutes les convenances de la conduite, du maintien soient observées et que tous remplissent leurs devoirs réciproques, seul l'amour vrai nous rend heureux dans nos rapports les uns avec les autres. Or, de même que l'amour donne sa chaleur d'affection, la joie est le rayon de soleil qui remplit la maison de son éclat. Même dans la souffrance et la pauvreté, les membres d'une famille qui s'aiment sont une source de joie les uns pour les autres. Sans cette joie, spécialement, il n'y a pas de vraie obéissance de la part des enfants. Ce n'est pas à la simple exécution d'un ordre donné ou à l'accomplissement d'un service que des parents regardent, c'est à la manière joyeuse, volontaire, au joyeux empressement avec lesquels cela est fait qui rend ce service agréable. Il en est de même des rapports des enfants de Dieu avec leur Père Céleste. Même dans l'effort que nous faisons pour arriver à une vie de consécration et d'obéissance selon l'Évangile, nous sommes continuellement en danger de nous replacer sous la loi avec ces « tu feras, tu ne feras pas ». La conséquence en est toujours une occasion de chute. La loi ne produit que la colère s'en sert, elle ne donne ni la vie ni la force. Ce n'est que lorsque nous nous tenons fermes dans la joie de notre Seigneur, dans la joie de notre affranchissement du péché, dans la joie de son amour et de ce qu'il est pour nous, dans la joie de sa présence que nous possédons la force nécessaire pour le servir et pour lui obéir. Ce n'est que lorsque nous sommes libres de tout maître, du péché, du moi et de la loi, ce n'est que lorsque nous nous réjouissons dans cette liberté que nous pouvons offrir à Dieu un service qui le satisfasse et qui nous rende nous-mêmes heureux. « Je vous reverrai, disait Jésus à ses disciples, et votre cœur sera réjoui, et nul ne vous ravira votre joie. » La joie est la preuve et la condition de la présence permanente et personnelle de Jésus dans notre âme. Si la sainteté est la beauté et la gloire de la vie de la foi, il est évident que là, tout particulièrement, l'élément de la joie ne doit pas faire défaut. Nous avons déjà vu comment la première mention qui a été faite de Dieu comme le saint se trouve dans un chant de louange sur les bords de la mer Rouge, comment Anne, la mère de Samuel, et Marie, la mère de Jésus, dans leur moment d'inspiration, louaient Dieu comme celui qui est le saint. Comment le nom de Dieu trois fois saint, prononcé dans les cieux, vient jusqu'à nous par la bouche, et dans le cantique des séraphins, et comment les êtres vivants qui sont devant le trône et la grande multitude des rachetés, qui chantent le cantique de l'agneau, adorent Dieu comme le saint. Nous devons l'adorer dans toute la beauté de sa sainteté, chanter ses louanges en nous souvenant de sa sainteté, Ce n'est que dans un esprit d'adoration, de louange et de joie, que nous pouvons connaître Dieu, parfaitement comme le Saint.